Bon, c'est parti. Festival Chahut, le sélecteur Charla. Nous sommes au Tanbin. Merci, Hon, de nous accueillir chez toi. Et nous accueillons David Roland. Et pour commencer, comme d'habitude, un petit peu de musique.
C'est un fait. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Les éléphants sont gris et la mer c'est bleu. La mer c'est bleu et les éléphants sont gris. Mais qu'est-ce qu'il y a des éléphants ici? La mer c'est bleu et les éléphants s'y vont. Les éléphants s'y vont, ils vont en vacances. Les éléphants font des vacances comme tout le monde. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage. Comme ça. Le bateau ne marche pas, c'est trop petit. Les éléphants tombent dans la mer. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils sont sauvés. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli.
Bonjour David, Roland, donc c'était The Little Rabbits, la mer. J'aimerais pour commencer que tu me décrives une journée type que tu peux passer à Nantes à travers les lieux et les gens que tu peux côtoyer quand tu as le temps.
Alors la journée type que je peux passer à Nantes, ça va commencer assez tôt le matin et de promener mon chien. Donc un des lieux de prédilection de promenade, enfin il y en a plusieurs, habitant en face de la gare côté nord de Nantes, je pars au Jardin des Plantes qui est assez sublime. Et quelle que soit la saison, il est toujours en transformation. Donc je commence quand même avec un contact avec la nature ou avec le patrimoine, puisque juste à côté, il y a les douves du château. Et ensuite, j'ai la chance de travailler chez moi, à la maison, et les bureaux de ma compagnie de danse sont là. Donc la journée continue entre la maison et le bureau. Et la particularité aussi de notre lieu, c'est qu'on accueille une galerie d'exposition. Donc ça va être aussi très souvent un travail avec des plasticiens qui sont en montage. Voilà. Ensuite, je prépare à manger pour tout le monde. Et puis, rebalade du chien en soirée, où là, je peux aller voir Blandine, qui est une amie qui a une crêperie, ou aller prendre l'apéro avec des amis.
Comment passe-t-on de pharmacien à chorégraphe ?
je pense que j'ai toujours été les deux en même temps. Mais après avoir fini les études de pharmacie et avoir commencé une carrière dans l'industrie pharmaceutique, dans le marketing, j'ai dû faire le service militaire. Et là, j'ai eu bien le temps pour réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et la danse est vraiment devenue une évidence. Donc j'ai toujours dansé, même pendant les études de pharmacie. Mais à un moment donné, voilà, peut-être la maturité a fait que j'ai choisi de danser. Après, sachant que pour un garçon, de se lancer dans la danse contemporaine, dans les années 90, c'était assez facile. Il y avait très peu de garçons qui faisaient de la danse, donc j'ai trouvé assez facilement du travail sur Paris, en alternant assez longtemps un travail de remplacement en pharmacie le soir et le travail de la danse, jusqu'à passer le pas et créer une compagnie.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la galerie Ipso Facto ?
Alors la galerie Ipso Facto, on l'a créée en 97 avec Jean-François Guillon et Jean-François Courtilla, qui sont deux artistes plasticiens. Moi, je ne connaissais pas beaucoup l'art contemporain, donc je leur ai donné des coups de main comme je pouvais. C'était dans un petit lieu à côté de la place Mélinette à Nantes. Et l'idée, c'était à chaque fois de se faire rencontrer deux artistes, un artiste de Nantes et un artiste venu d'ailleurs. Donc ça a donné lieu à des rencontres, on a même créé des couples. Enfin, voilà. Et puis la galerie Ipso Facto est devenue, il y a 7-8 ans, la galerie RDV, après un déménagement, où là on fait plus des monographies. Donc c'est pas une galerie marchande, c'est vraiment un lieu d'exposition destiné soit à des jeunes artistes qui sortent de l'école des Beaux-Arts, soit à des artistes plus confirmés mais qu'on ne verrait pas assez sur la scène nantaise. Donc on est vraiment un tremplin, on va dire, entre la sortie de l'école des Beaux-Arts et l'institution. On a aussi un partenariat avec le musée de l'imprimerie à Nantes, et on propose aux artistes qu'on invite de créer des lithographies, ce qui donne lieu à une exposition collective. Il y a aussi des projets hors les murs, des invitations avec des structures analogues, puisqu'on fait partie d'un réseau qui s'appelle la FRAP, qui en fait fédère tous les lieux d'exposition qui sont gérés par des artistes eux-mêmes. Parce que dans les années 90 encore, il y a eu tout un élan d'artistes qui se sont pris en main et qui ont créé leur propre lieu d'exposition. Voilà, donc on est à 7 à 8 expos par an. Voilà.
Qu'aurais-tu voulu faire sans jamais en avoir eu l'opportunité ?
Waouh ! Si tôt le matin. Non, il n'est pas si tôt que ça. Avant,
il les a écrits tout le soir, sûrement.
Qu'aurais-je voulu faire sans ça ? Mais que je pourrais encore faire. Ah. Je pense que j'aimerais bien diriger un lieu, un théâtre. Un théâtre avec une salle classique, puis aussi un théâtre ouvert vers l'extérieur, voilà, qui peut proposer toutes les écritures et à la fois ouvert sur la ville et des nouvelles écritures de plateau et peut-être repenser le rapport de la direction de théâtre aux artistes. Enfin, il y a plein d'endroits et au public, il y a plein d'endroits où on peut agir. Et c'est peut-être la place de l'artiste d'être dans la programmation. Et ça, c'est, pour l'instant, je n'ai pas eu l'opportunité, mais voilà, je garde un micro.
Qu'est-ce que tu peux reprocher aux directions actuelles quand tu dis que tu veux la repenser? C'est que tu as une petite idée derrière la tête.
Non, mais avec... Enfin, bon, oui, déjà le rapport aux artistes et la manière dont... faut pas se tromper. Moi, j'ai toujours pensé qu'avec les directions de théâtre, on travaille vraiment pour la même histoire, quoi. Que, d'un côté comme de l'autre, on se bat pour déjà avoir les financements, avoir les moyens de notre travail, quoi. Voilà. On sait aussi que les directeurs de théâtre sont super sollicités, ne peuvent pas répondre à toutes les sollicitations, mais néanmoins, je remarque que certains y arrivent différemment que d'autres et peut-être mieux dans leur rapport aux artistes. Donc ça, c'est... voilà, il y a des gens auprès desquels j'aimerais apprendre cela. Et ensuite, c'est comment... y a plein d'intermédiaires après dans un théâtre. Il y a les relations avec le public et des gens qui travaillent autour de ça, avec lesquels nous, artistes, on ne travaille pas toujours énormément. Donc il y a plusieurs liens ou de communication du travail de l'artiste à faire pour accéder plus directement au public. Quoi. Voilà, parce que parfois, on se retrouve avec des textes de plaquettes ou des gens qui parlent de notre spectacle avec des malentendus, des mots qui sont... Voilà, donc ça... Il y a toute une chaîne de transmission du travail de l'artiste qui pourrait être pensée.
On va faire une petite pause musicale avant d'aborder... Sur ce, comment fais-tu pour tout transformer en piste de danse ?
J'appelle ça faire feu de tout bois. ça part d'un travail, enfin d'une vision qui pourrait paraître naïve de la danse, mais dans la Pimanif qu'on va jouer, par exemple, il y a des moments que j'appelle les phases contemplatives et où je mets juste une musique dans le casque des gens je mets juste une musique dans les casques HF enfin, plusieurs musiques même que le spectateur entend, et je lui demande juste de regarder la scène devant lui comme ça et en imaginant que ça peut être mis en scène ou chorégraphié. Et voilà, c'est donc tout peut devenir piste de danse. C'est le regardeur qui fait la danse, voilà, ou le danseur qui décide de danser. Mais là, en tout cas, je m'amuse aussi de faire de tout geste que les gens savent faire. Alors, j'aime pas trop le geste quotidien, mais bon, le mot quotidien, mais que tout geste que les gens savent faire, pour peu qu'ils y portent une attention, peut devenir geste chorégraphique. Voilà. Donc tout est chorégraphié.
Il me semble que tu as dit que tu voulais amener le spectateur à décaler son regard sur la question du danseur-interprète. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?
Dans tous les spectacles que je mets en scène où je demande, où les spectacles participatifs où le spectateur devient danseur, j'essaye justement, avec cette histoire de tout est chorégraphié, à ce que le spectateur ait une vision autre de la danse. Donc ça va être lui-même en lui demandant d'interpréter une partition que j'aurais écrite à l'avance, sans préparation, sur le qui-vive, comme ça, un brûle-pourpoint. Soit en amenant sur scène des danseurs, des non-danseurs, qui soient plutôt pas amateurs, qui n'aient aucune pratique de danse, et de les amener comme ça avec des mouvements, des gestes très simples à faire danser rapidement, ou même avec des danseurs professionnels. Un des spectacles, par exemple, convoque à chaque spectacle 12 danseurs différents qui n'ont que 4 heures de répétition la veille. Donc c'est comment j'arrive à mettre ces principes-là et que le spectateur soit très au courant du processus du spectacle, de telle manière à ce qu'il soit en réelle empathie avec le spectateur, quoi. Que le spectateur soit en réelle empathie avec le danseur, pardon. Donc voilà, c'est à chaque fois j'essaye d'amener un autre regard sur ce que peut être la danse. C'est pas une réaction contre la danse virtuose ou le spectateur serait uniquement dans regarder quelque chose de sublime, mais j'estime qu'il y a des gens qui le font très très bien, donc je cherche une autre voie pour la danse.
Mais tu viens de dire que tu voulais amener les spectateurs à avoir une autre vision de la danse, parce qu'a priori, quand ils arrivent, ils ont quelle vision de la danse ?
Alors, y a des spectateurs aguerris, bien sûr, mais quand je vais en milieu scolaire, ou quand, voilà, très souvent, les enfants, la seule image qu'ils ont, c'est de ce qu'ils voient à la télé, quoi. Donc, et puis de la danse contemporaine et de la danse en général est riche de tellement d'esthétique j'aime amener un regard sur la danse qui est beaucoup plus simple et qu'elle peut être partout dans la vie de tous les jours, quoi, et qu'elle n'est pas seulement un danseur derrière un chanteur, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais.
Et tu as également dit que la rue sera le lieu du désintérêt total. Kezako, comme on dit par chez moi.
Alors dans Happy Manif, en fait, je m'amuse à recréer pas mal de situations que j'appelle de la rencontre urbaine. Donc je veux très bien faire en sorte que demander aux gens d'avoir des coups de foudre ou des retrouvailles passionnées ou plus embarrassées. Et puis je passe aussi par le désintérêt total, c'est-à-dire je m'amuse à ce que les spectateurs jouent à totalement s'ignorer, à faire comme s'ils n'étaient pas là. Et voilà, donc on est dans une sorte d'exercice de style sur qu'est-ce que peut être la rencontre dans la rue, quoi. Voilà. On a tous peut-être connu le fait d'avoir quelqu'un sur le trottoir d'en face dont on ne veut pas croiser le regard et qu'on fait semblant de ne pas voir, quoi. Par exemple. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
Il y a du vécu. Part et d'autre. Et comment écris-tu tes partitions ?
Alors, les partitions commencent par un repérage dans la ville. Donc, je demande au lieu qui m'accueille de me choisir un quartier qu'ils aiment bien, ou voilà, et de me donner quelques petits endroits comme ça significatifs pour le quartier. Et ensuite, je me perds Je suis dans un... Voilà, j'essaie d'ouvrir mon regard au maximum, de repasser plusieurs fois dans les mêmes espaces, de regarder en l'air, par terre, tout ça, de trouver des détails. Le moindre petit graffiti peut m'amuser et me donner une piste pour la partition. Et après, j'arrive à faire ce parcours. Je compte mes pas très précisément. Je suis presque mathématicien dans cette histoire-là. Et ensuite, en fonction des lieux que je trouve, bah, ça peut être le nom d'une rue ou une histoire qui m'amène à faire appel à... Parce que je travaille beaucoup avec soit des musiques de films, soit avec des extraits de cinéma et qui m'évoquent des choses comme ça. Donc je prends vraiment parfois un petit détail, je tire le fil et ça me fait créer des séquences. Quoi. Voilà. Mais toujours avec cette idée à l'intérieur des spectateurs de comment j'arrive à faire rencontrer les spectateurs, comment j'arrive à les mettre en mouvement, à créer des mouvements. Donc le moindre palmier dans une rue va m'amener forcément à une danse hawaïenne.
Et ici, comment tu t'es perdu ?
J'ai beaucoup marché, deux jours, sous la pluie. Voilà. Incessante. J'en garde un souvenir très...
Parce que tu n'avais pas le choix ?
Parce que j'avais ces deux jours-là et que j'étais arrivé, voilà. Et du coup... La place et Mokayou étaient encore en travaux. Voilà, tout était. Enfin, je me suis beaucoup perdu et ça a été vraiment difficile parce qu'il y a vraiment plein d'espaces, de rues, de choses dans lesquelles j'avais envie d'aller notamment ce petit jardin qui est à côté du marché des Capucins, là où faut monter quelques escaliers, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc malheureusement, ça grandissait trop le parcours et j'arrivais pas à faire la boucle souhaitée, quoi. J'ai beaucoup aimé la rue Camille Sauvageau, très longue rue Camille Sauvageau. Cette petite place, la place du séminaire, avec le plan du quartier Saint-Michel et le banc Vous êtes ici. Voilà, parce que ça me permettait de faire un petit jeu autour de ça. Et puis bien sûr, juste se poser place Saint-Michel pour regarder les gens, c'est génial, quoi. Voir une vie de quartier comme ça, c'est rare.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Jacques Demy ?
Alors, étant nantais et né à Nantes, comme Jacques Demy, je le ramène souvent dans l'Happy Manif, puisque je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que lui sur la manière dont il enchante les villes. Et dont il peut en faire des lieux, des personnages à part entière dans ses films. Et puis, un peu comme dans l'Happy Manif aussi, j'aime mélanger et la danse, et le chant, et le film. Et puis forcément, son humour totalement décalé, second degré, on le retrouve vraiment là-dedans. Donc il y a beaucoup de personnages ou d'extraits de films que je convoque, quoi. Et puis Jacques Demy est aussi un chorégraphe, quoi. Il y a qu'à voir les chassés croisés dans les Demoiselles de Rochefort, c'est absolument fantastique, quoi. Donc en cela, je me reconnais énormément dans lui, quoi. Ouais.
Et donc, comment tu intègres le théâtre, la performance, l'art contemporain, l'architecture, l'histoire à tes partitions?
L'un après l'autre. Bon, l'histoire, c'est assez facile. Hein, c'est l'histoire de la ville et d'attirer l'attention sur... parce que j'essaye de me documenter au maximum sur les endroits que je rencontre. Et très souvent, à la fin des Happy Manifs, les gens me remercient parce qu'ils passent devant des endroits et ne savent pas... Ne savent pas forcément de qui le nom de la rue. Il y a dans le quartier Saint-Michel, il y a quand même pas mal de noms... de noms étranges, on va dire. Et donc, je cherche par rapport à ça. L'art contemporain, pour moi, c'est vraiment lié au fait que ça traverse à peu près tout mon travail, dans le sens que je parle plus souvent de performance au sens de l'art contemporain que de spectacle, en fait. Il y a plus un côté performatif que toujours le côté frontal du spectacle. Le théâtre, c'est parce que je mélange vraiment les genres. Les publics peuvent se mettre à danser, et puis ensuite je vais leur demander de faire un remake d'une scène de cinéma. Ils deviennent plus comédiens que danseurs. Voilà, donc j'essaie d'être vraiment pluridisciplinaire et de mélanger les genres. Néanmoins, je viens de la danse et je reste chorégraphe.
Quelle est ta vision de l'art chorégraphique aujourd'hui ?
Ah ouais. Alors, ça c'est une grosse question. Je pense que c'est toujours un art en éternelle transformation. Et auquel on ne donne pas toutes ses chances dans les théâtres. Il y a tellement d'esthétiques différentes, de points de vue différents autour du corps, de la danse, que c'est compliqué d'amener sur scène, dans un même théâtre, toutes ces esthétiques afin que le spectateur puisse se faire son goût, son regard, c'est compliqué. Et donc, malheureusement, très souvent... un même spectateur, s'il peut partir d'un malentendu, il y a une pièce qu'il aura soi-disant pas compris, et donc il n'y reviendra pas. Donc c'est un peu, ça c'est le principal souci. Après, ça c'est plutôt politique. Les personnes doivent, enfin les théâtres doivent remplir les salles. Ils ont des critères à remplir, une économie qui est de plus en plus difficile. Donc ils se tournent, on va dire, vers des propositions peut-être plus faciles qui remplissent les salles et on est malheureusement dans un retour vers ce que j'appelle les grosses machines, des gros spectacles avec des danseurs qui dansent beaucoup, qui font beaucoup de... qui sont dans la virtuosité et on est moins dans un regard politique ou engagé vers la danse. Après, il y a toute une émergence qui trouve quand même sa place et qui, elle... il va quoi, quand même, mais c'est compliqué pour tourner, pour trouver des lieux qui acceptent ces propositions-là.
Elle fait nuit. Elle est dans un appartement, une suite, une salle à manger. Elle chante. Elle téléphone, ordonne, craque et crie. Elle est énervée. Elle est photographiée, suivie, harcelée. Elle est de mauvaise humeur. Elle monte en voiture dans une Mercedes avec Dodi. Elle roule. Elle est en voiture dans une Mercedes à Paris avec Dodi. Elle roule vite. Elle est assise à l'arrière dans une Mercedes avec Dodi. Elle roule très vite. Elle est sous un pont dans une Mercedes avec Dodi. Elle a un accident.
She has pain, but she's still alive. She closes her eyes. struggles.
Elle est couchée sur le sol, mais elle est toujours
vivante. She bows her head, but she's still alive.
Elle est prise au piège, mais elle est toujours vivante.
But she's still alive. She's confused.
Elle est pliée en deux, mais elle est toujours vivante.
She's disoriented, but she's still alive.
Elle gémit, mais elle est toujours vivante.
She's still alive.
Elle s'agite, mais elle est toujours vivante.
She's still alive.
Elle lutte, mais elle est toujours vivante.
But she's still alive.
Elle a mal, mais elle est toujours vivante.
But she's still alive.
Elle ferme les yeux, mais elle est toujours vivante.
She's still alive.
Elle est incohérente, mais elle est toujours vivante.
But she's still alive.
Elle est désorientée, mais elle est toujours vivante.
But she's still alive.
Elle est paralysée, mais elle est toujours vivante.
But she's still alive.
Elle est sur une civière, mais elle est toujours vivante.
But she's still alive.
Elle est dans une ambulance, mais elle est toujours vivante.
But she's still alive.
Elle est avec le docteur, mais elle est toujours vivante.
But she's still alive.
Elle est à l'hôpital, mais elle est toujours vivante.
She's still alive.
Elle a un arrêt cardiaque, mais elle est toujours vivante.
She's still alive.
Elle a un visage pâle, mais elle est toujours vivante.
She's still alive.
Peux-tu nous parler de la personne qu'on vient d'entendre et nous dire qu'est-ce qui t'a apporté en tant que regard extérieur sur ton travail?
Donc James Chaton, c'est d'abord un très bon ami et puis aussi donc, il est poète sonore, plasticien, on l'a déjà invité à plusieurs reprises à la galerie RDV. Et donc je lui ai demandé de venir comme regard extérieur sur le seul solo que j'ai fait récemment qui s'appelle « Penchez-vous sur mon berceau » parce que j'aime bien dans son travail ses registres très très simples et la manière dont il a la radicalité de son propos, que ce soit au niveau plastique ou musical ou poétique et la manière dont il trace une voie dans une seule direction. Et du coup, il m'a vraiment aidé sur l'écriture de la pièce où j'avais plusieurs registres à faire coïncider et la manière dont ces registres vont fonctionner ensemble. Et son aide a vraiment été super. Enfin, voilà, un vrai regard. Et donc, il y avait pas que lui. Hein, il y avait aussi Jean-François Courtilla, notre plasticien, Valérie Baird et Cyril Accorsi, danseur.
Comment vous vous êtes rencontrés?
Alors, la Valeria Djouga, qui est la danseuse fétiche de la compagnie, est devenue sa petite amie. Voilà, donc tout simplement, c'est par un lien d'amitié.
Là, je vais te demander un petit exercice un peu compliqué. J'aimerais que tu me dises ce que tu retiens du travail effectué avec les personnes suivantes. Odile Duboc, Blancali, Billet Cocampo, Béatrice Massin, Roland Ravard et Anne de Sterck.
Alors Odile Duboc, avec elle j'ai appris à marcher en avant, en arrière, à avoir le goût de la marche, de l'espace, du regard, énormément de choses, presque, enfin voilà, quasi tout dans la danse. Blancali. C'était une expérience incroyable puisque c'était une de mes premières expériences d'interprète professionnel et du coup suite à une audition j'ai déboulé sur la scène de l'Opéra Garnier à Paris, donc sur un opéra Les Saintes Galantes de Rameau. Donc ça a été vraiment une expérience extraordinaire et c'est une femme qui a un humour incroyable quoi. Donc une grosse expérience avec elle. Mie Campo, avec elle j'ai appris à improviser et un travail de déstructuration du corps et de la danse. Voilà, ça m'a donné des outils pour toujours. Béatrice Massin est une chorégraphe de danse baroque qui elle aussi, en complément avec Odile et Millet, a vraiment une vision de l'espace derrière soi quand on marche, du parcours du danseur, et un rapport à la musique, et le rapport musique-danse dans la danse baroque est très très important. Donc voilà, avec elle j'ai appris à tricoter avec mes pieds, ce qui n'était pas une mince affaire. Roland Ravard, ça c'est un compagnon de longue date, puisque ça fait 11 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Roland compose les musiques des spectacles depuis 11 ans. On a commencé avec une pièce qui est devenue un tube de la compagnie qui s'appelle Les Lecteurs. C'est la première fois qu'on se rencontrait. Et donc on s'est vraiment rencontrés et sur les goûts musicaux et sur l'humour qu'on peut avoir autour de la musique et de choix de choix de musique existante, et lui dans sa composition, quoi. Et c'est la manière dont on est sans arrêt dans toutes les pièces, il y a un rapport musique-danse qui est assez important, et donc la manière dont moi je peux lui faire des propositions, et du coup il a rien compris de ce que je lui ai dit, il m'en fait autre chose, et du coup moi aussi ça me fait avancer dans une autre direction. Et puis Anne de Sterck, qui est également poète sonore et plasticienne, on a collaboré ensemble sur deux pièces, et elle est aussi dans une écriture et d'un second degré, mais qui est différente de l'humour que je peux avoir moi. Donc c'est comment on s'est complété avec nos savoir-faire différents, elle sur l'écriture, moi sur la danse. Voilà.
Comment tu pourrais décrire ton humour ?
C'est l'heure du joker. On n'a pas parlé d'éventuels jokers dans la question. Il n'y en a pas.
Ton humour à toi, il est pas mal.
Ça peut être assez grinçant par moment, prendre les spectateurs dans leurs propres défauts, mais toujours amusé. Ouais, me moquer un peu du spectateur dans ce qu'il est en train de faire. Mais ça, c'est aussi pour acquiser leur propre recul par rapport à la partition qu'ils sont en train d'interpréter, parfois un peu aveuglément, et j'essaie des fois de les réveiller pour leur donner du recul dans ce que je leur demande de faire, d'effectuer, enfin propose en tout cas. Je sais pas, c'est un humour second degré qui manie des regards amusés sur nos comportements qu'on peut avoir, nous, en tant que citoyens, qu'êtres humains. C'est pas potache, je pense pas. Limite. Ça peut être burlesque. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour amener le spectateur à une interprétation sans pathos, désintéressée de ce que je lui propose de faire, ça commence toujours par le jeu, quoi. C'est très ludique. On est même parfois dans un rapport assez enfantin pour que j'amène à le spectateur dans l'action. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas un humour méchant. Dans le sens où voilà, c'est un humour bienveillant, c'est un mot que j'utilise assez souvent. Dans le sens où, dans les spectacles participatifs, je souhaite toujours qu'il y ait une vraie relation de confiance entre le chorégraphe, moi, qui leur délivre une partition la plus confortable à interpréter. J'ai un peu sorti du cadre de l'humour, mais ça en fait partie, je crois. Ouais, une relation de confiance et de la bienveillance.
Quel chorégraphe t'ont fait rêver ?
Maggie Marin, Anne-Thérèse de Kersmaker, Mathilde Monnier, Odile Duboc, et tous les chorégraphes des grandes comédies musicales américaines.
Et pour qui aurais-tu aimé danser ?
Jérôme Robbins, Maggie Marin, Anne-Thérèse de Kersmaker. La même liste en fait qu'avant. Myriam Gourfink, qui est une chorégraphe qui travaille autour d'une extrême lenteur et elle amène vraiment ses danseurs dans des endroits que j'ai jamais explorés. Voilà.
Tu me tends la perche, c'est quoi ces endroits que tu n'as jamais explorés?
Ben justement, c'est en tant que danseur, il y a vraiment plein de techniques différentes, d'une forme de conscience du corps. Et elle, à travers le yoga, je crois, beaucoup, elle amène vraiment, je pense, que le danseur a un voyage autour des sensations corporelles que moi, j'ai jamais encore eu la chance de rencontrer. Quoi. Donc ce serait vraiment ça. Mais après, il y en a d'autres. Hein. Il y a les méthodes de Feldenkrais, Alexander, tout ça. Il y a plein d'endroits où le danseur peut encore travailler. Quoi. C'est tellement vaste qu'on n'a pas le temps de tout.
Je crois que tu as oublié de dire quelque chose tout à l'heure.
Oui, Anne de Sterck, dont on parlait tout à l'heure, est invitée par le bruit du frigo et elle sera dans la gare de Bordeaux la semaine prochaine.
On va flairer les informations du bruit du frigo pour aller voir le travail d'Anne de Sterck. Quel est le rôle social que joue la danse dans tes spectacles ou en règle générale?
Ouais, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les textes qu'on écrit sur les pièces. C'est plutôt, moi je l'interroge en fait ce rôle social. on sait tous que un des moyens de rencontre bien avant la télé tout ça était c'était les balles quoi. Donc la danse, pratiquer la danse ensemble avait un rôle social très très important, et que cet espace là existe très peu maintenant. Et donc je réactive à travers mes spectacles cette idée là de la rencontre à travers la danse quoi.
Tu peux nous en dire un peu plus sur cette danse collective d'autrefois, parce qu'effectivement tu disais que c'était très, très présent et qu'aujourd'hui ça s'est perdu. Pourquoi tu as une idée par rapport à ça?
Pourquoi ça s'est perdu? Oh ben c'est un enfermement sur soi-même. Je pense que maintenant, le soir, les gens peuvent s'occuper à la maison, regarder la télé, surfer sur Internet, se rencontrer virtuellement à travers les réseaux sociaux. Et que bon, après, c'est peut-être des histoires de mode et de goût, mais la rencontre sur les places, à travers des balles, est quelque chose qui existe beaucoup moins. Donc ça se fait dans des festivals, il y a encore pas mal de fest-noz en Bretagne, et j'imagine plein d'autres situations comme ça dans d'autres régions, mais aujourd'hui aller danser sur la place n'est pas forcément un réflexe qu'on a.
Il me semble qu'aujourd'hui tu travailles essentiellement en participatif. Est-ce que c'est quelque chose d'irrémédiable?
C'est... Je travaille en participatif. On va dire qu'une deux pièces sur trois sont des pièces participatives avec des dispositifs différents. Je pense que je suis un chemin, et que c'est un des seuls moyens que j'arrive à trouver pour faire partager justement une division de la danse, mon regard sur où est-ce qu'on peut trouver de la danse dans la vie de tous les jours. Effectivement, rappeler ce rôle social qu'a pu avoir la danse. Oui, c'est ça, quoi. Donc à chaque fois que les idées me traversent pour un nouveau spectacle, une nouvelle proposition, ou des commandes, ou des choses comme ça, c'est très souvent quelque chose de participatif qui me vient à l'idée. Alors c'est peut-être de l'ordre du tic, j'en sais rien, ou alors c'est parce que je me sens plus à l'aise là-dedans, dans une sorte de savoir-faire que j'aurais développé dans l'adresse que je peux avoir au spectateur. Mais c'est toujours vers là que je m'oriente.
C'est parce que tu as envie de donner envie à tes spectateurs, acteurs, d'aller plus découvrir de la danse contemporaine, ou c'est parce que toi, dans tes réflexions artistiques, c'est à cet endroit que tu te réalises le mieux dans le spectacle?
Moi, c'est la deuxième partie, oui. C'est là où je me réalise le mieux. Après, des théâtres peuvent s'en saisir en se disant, ben voilà, en faisant danser les spectateurs, on va peut-être les amener plus à rentrer dans les salles pour découvrir la danse. Certains retours du public me donnent ça, mais c'est vraiment pas le but d'être dans la sensibilisation et l'action culturelle là-dedans, quoi. Non, c'est vraiment pour déjà partager mon regard artistique que je fais ça. Si ensuite il y a de bons effets secondaires de cet ordre, je suis preneur aussi, quoi, bien sûr, mais c'est pas le truc premier, quoi.
Donc aujourd'hui tu es plus chorégraphe que danseur, ou tu danses toujours?
Je suis plus chorégraphe que danseur. Dans certaines des propositions, je danse. Le solo que j'ai créé, enfin, il y a eu ce solo autoportrait en 2013, où je me suis remis à gigoter dans tous les sens. Mais oui, je me sens chorégraphe. Ouais.
Tu n'aurais plus envie de danser pour d'autres chorégraphes?
Je pense que c'est pas une histoire d'envie, c'est plus une histoire de temps déjà, que je suis pas mal accaparé par le travail de la compagnie et je touche du bois, ça marche bien. Voilà. Mais j'aimerais de temps en temps me retrouver dans la stature de l'interprète et me laisser aller dans l'univers d'un autre. Quoi. Ouais, j'avoue que ouais, ça me plairait bien. Quoi. Mais c'est vraiment une histoire de temps et pas d'envie. Quoi.
J'aimerais appeler Hon. Hon, est-ce que tu m'entends ? Viens t'asseoir un petit peu. J'invite le patron de ce lieu magique, le Tangbin, où je passe souvent à midi pour lui demander une soupe pho et aussi ces petites crêpes qui s'appellent comment ?
Le Ban Kuon.
Tu peux me décrire un petit peu ces crêpes fabuleuses, excellentes, parce qu'il est bientôt midi là, donc personne ne nous entend, mais si vous passez par là, venez goûter les Ban Kuo.
Pâte de riz et la farce, porc, champignons, sel, poivre. À la vapeur.
C'est une crêpe qui vient d'une région particulière du Vietnam.
Tout le long du Vietnam, oui.
Tout le long du Vietnam. Merci. Merci de nous accueillir et merci à toi d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et on finit toujours en musique ces petites interviews.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. He said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen them go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, baby, take a walk on the wild side. All right. Huh. Jackie is just in the way. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that dash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey mommy, take a walk on the wild side. And the help will say, do 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 do.
Là-bas, c'est bon. On est là-bas, alors. Bah, au revoir, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, peut-être. Je ne sais pas parce qu'il y a la kermesse.